RFI à Paris, il est 7h, 8h à Goma, 9h à Damas.
Andréane Mélard.
Et tout de suite, c'est le journal. Bonjour Alban Le Prince.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, clap de fin pour l'UNRWA.
L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens doit fermer aujourd'hui son bureau à Jérusalem sur ordre d'Israël. Reportage dans un instant dans le camp de Chouafat à Jérusalem-Est. En Syrie, la transition est officiellement lancée. L'homme fort du pays, Ahmad al-Sharen, nommé hier président intérimaire. Il est maintenant chargé de former un conseil législatif intérimaire pour la période de transition, période dont on ne connaît pas la durée, qui pose encore des questions. Au sommaire, également cette prise de parole très attendue en République démocratique du Congo, celle du président Félix Tshisekedi. Il s'est exprimé hier soir pour la première fois depuis le début des affrontements à Goma avec le M23 soutenu par le Rwanda. Et puis Donald Trump continue d'imprimer sa marque. Dernière annonce en date, faire de la base américaine de Guantanamo un centre géant de rétention pour 30 000 migrants sans papier. Les précisions dans ce journal.
Israël va libérer 110 prisonniers palestiniens aujourd'hui, c'est ce qu'affirme une ONG palestinienne.
En même temps, 8 otages israéliens retenus dans la bande de Gaza vont être relâchés. 3 autres samedi, annonce hier de l'État hébreu, alors que juste avant, des responsables du Hamas l'accusaient de retarder l'arrivée de l'aide humanitaire à Gaza. 3000 camions seraient d'ailleurs entrés dans l'enclave depuis dimanche, selon le ministère de la Défense israélien, chiffres qui n'ont pas été confirmés par l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, officiellement interdite à partir d'aujourd'hui à Jérusalem sur ordre d'Israël. Reportage dans le camp de Chouafat à Jérusalem-Est avec Muriel Paradon et Nicolas Benita.
Il faut passer un mur de séparation pour pénétrer dans le camp de réfugiés de Chouafat, un mélange de constructions anarchiques et de ruelles étroites. Rattaché à Jérusalem-Est, secteur occupé et annexé par Israël, le camp semble coupé du monde. Ici, les Palestiniens, réfugiés de génération en génération, dépendent essentiellement des services de l'UNRWA, y compris le nettoyage des rues, explique cet habitant.
Bien sûr, avec le monde qui vit ici, si on ne nettoie pas quotidiennement, ce serait très sale. Normalement, c'est la municipalité de Jérusalem qui devrait s'en charger, mais elle s'en fiche de nous. Sans l'UNRWA, la situation serait catastrophique.
Dans le camp de Chouafat, l'UNRWA gère aussi 3 écoles qui risquent de fermer leurs portes avec les nouvelles lois israéliennes. Im Bilal Ajloni s'inquiète pour sa fille de 14 ans scolarisée dans l'une d'entre elles.
Je ne sais pas où je vais mettre ma fille. Elle est habituée à son école depuis toute petite, à ses professeurs. Si je la mets dans une autre école, je devrais payer, mais notre situation ne nous le permet pas.
La gratuité, c'est aussi l'avantage du seul centre de santé du camp, géré par l'UNRWA. Mais ce n'est pas le seul, explique Jian Abdulrahman, 30 ans, venu chercher des médicaments pour son père.
On a l'habitude de venir ici pour la qualité des médicaments et le personnel est accueillant. Ici, je me sens bien comme réfugiée palestinienne, mais quand on a un rendez-vous médical à Tel Aviv, on y réfléchit à deux fois parce qu'on a peur d'aller chez les Israéliens.
Avec ces nouvelles lois israéliennes interdisant les activités de l'UNRWA, ces Palestiniens se retrouvent plongés dans l'incertitude et le désarroi. Muriel Paradon, Nicolas Benita, Jérusalem, RFI.
On notait par ailleurs que 10 personnes ont été tuées hier dans le village de Tamoun, en Cisjordanie occupée, annonce des autorités palestiniennes, confirmée par l'armée israélienne qui assure avoir frappé une cellule terroriste armée. Le cessez-le-feu dans la bande de Gaza est quant à lui toujours en vigueur.
Dissolution de l'ancien Parlement, gel de la Constitution de 2012, plus d'un mois après la chute de Bachar al-Assad. La transition est bel et bien lancée en Syrie.
Les nouvelles autorités ont aussi annoncé hier la nomination officielle d'Ahmad al-Sharen comme président intérimaire du pays. C'est aussi lui qui représentera la Syrie dans les forums internationaux. Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève.
Cette annonce met fin à une phase d'ambiguïté. On savait très bien qu'Ahmad al-Sharen a été l'homme fort. C'était le seul homme qui gouvernait, mais il avait besoin d'une officialisation. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Il dissout toutes les autres institutions héritées de l'ancien régime, mais aussi les organisations militaires. Mais cette décision, elle ne clarifie pas la situation. Au contraire, elle devient un peu préoccupante parce que nous n'avons aucune information, aucune visibilité sur la transition. Nous avons un gouvernement qui se termine fin mars et qui, lui, est chargé d'être un organe de transition. Dans l'annonce, on parle d'un conseil législatif désigné. Qui va le désigner? Quelle est la fonction de ce conseil législatif? Monsieur Ahmad al-Sharen, quelle sera sa position? Est-ce qu'il sera le président de l'organe judiciaire, l'organe législatif et l'organe exécutif? Est-ce que le gouvernement de Monsieur al-Bashir va continuer ou non? Donc, cette nomination, elle pose beaucoup plus de questions qu'elle répond finalement à une situation d'ambiguïté concernant la transition.
Des propos recueillis par Heike Schmidt pour RFI. Les nouvelles autorités syriennes qui ont aussi réclamé hier le retrait israélien de la zone démilitarisée du Golan lors d'un entretien avec le chef des casques bleus de l'ONU en visite en Syrie. Des troupes israéliennes y sont déployées depuis la chute le 8 décembre de Bachar al-Assad, une violation de l'accord de désengagement de 1974 d'après les Nations Unies.
La Syrie au cœur de notre rendez-vous aujourd'hui. L'économie ce matin, rendez-vous dans 5 minutes juste après ce journal. RFI 8h05 à Goma en République démocratique du Congo, secoué depuis plusieurs jours par l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda.
Et pour la première fois depuis l'entrée des combattants dans la ville de l'Est de la RDC, Félix Tshisekedi, le président, s'est exprimé hier soir juste avant minuit. Prise de parole très attendue, il a promis une riposte militaire, dénoncé l'inaction de la communauté internationale et mis en garde contre le risque d'escalade régionale. Bonjour Patient Legodi.
Bonjour Alban.
En correspondant de RFI à Kinshasa, que peut-on retenir ce matin de cette allocution ?
Vous l'avez dit, c'est un message martial du président Félix Tshisekedi. Une attaque contre la République, une offense à l'histoire et à la dignité du peuple congolais. Le temps est ferme, Félix Tshisekedi veut rassurer et mobiliser. Il affirme que la riposte sera vigoureuse et coordonnée. Et sur le plan militaire, un ordre clair a été donné. Le nouveau gouverneur du Nord Kivu doit coordonner et intensifier les opérations. L'objectif ? Reprendre le contrôle de la situation et restaurer la sécurité dans la province. Pour la population de Goma, il a aussi un message. Je ressens votre douleur, dit-il. La RDC ne pliera pas. La RDC ne reculera pas. Je ne vous abandonnerai pas, a-t-il dit. Et sur place à Goma, un calme relatif règne dans la ville ce matin, mais la tension reste vive. Les victimes des affrontements continuent d'affluer vers les structures médicales lorsqu'elles en ont la possibilité, rapporte d'ailleurs Médecins Sans Frontières. À l'hôpital de Kishiro, par exemple, les équipes de l'ONG font face à un afflux massif de blessés, alors que les récents affrontements et l'insécurité persistante ont considérablement réduit leur capacité d'intervention.
Merci beaucoup, Patient Legodi, en direct de Kinshasa pour RFI.
Aux États-Unis, un avion de ligne transportant 64 personnes s'est écrasé cette nuit dans le fleuve Potomac à Washington après une collision avec un hélicoptère militaire.
Juste à côté de l'aéroport Ronald Reagan qui a suspendu tous les décollages et atterrissages prévus, il y a des victimes, assure le sénateur du Texas, sans en préciser le nombre. Une opération de recherche et de sauvetage est en cours. Que Dieu les bénisse, a déclaré Donald Trump dans un communiqué.
Le président américain qui poursuit ses annonces chocs sur l'immigration.
Il veut faire de la base américaine de Guantanamo un centre géant de rétention pour 30 000 migrants sans papier. Aujourd'hui, seuls 15 prisonniers y sont enfermés. Les précisions à Washington pour RFI de Guillaume Nodin.
Pour gouverner, il faut manier le symbole. Guantanamo, c'est la base américaine sur l'île de Cuba qui a accueilli et qui continue d'accueillir certains ennemis combattants capturés par les États-Unis après le 11 septembre 2001. Le message, c'est donc que les terroristes et les migrants, au moins les plus dangereux, doivent se retrouver au même endroit.
We have 30,000 beds.
Nous avons 30 000 lits à Guantanamo pour détenir les pires criminels étrangers illégaux qui menacent les Américains. Certains d'entre eux sont si terribles que nous ne faisons même pas confiance à leur pays pour les garder en détention parce que nous ne voulons pas les voir revenir. Donc nous les envoyons à Guantanamo, un endroit dont il est difficile, très difficile de sortir. La signature de ce texte nous rapproche aujourd'hui de l'éradication des crimes des migrants contre nos communautés une bonne fois pour toutes.
Et cette annonce, Donald Trump l'a fait lors de la cérémonie de signature de la loi qui oblige les autorités fédérales à détenir les migrants coupables de certains crimes et délits. C'est la première loi qu'il promulgue. Elle s'appelle loi Lake and Riley, du nom d'une étudiante assassinée par un migrant vénézuélien en Géorgie. Ses parents, fervents soutiens de Donald Trump, étaient présents à cette signature. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et autre déclaration hier de l'administration Trump, l'annulation de la prolongation du statut de protection temporaire pour 600 000 Vénézuéliens présents sur le sol américain. Le président des États-Unis continue aussi sa croisade contre, je cite, les wokistes. Il a signé hier un décret pour mettre fin au financement des écoles publiques qui enseignent la théorie critique de la race et sensibilisent à la transition de genre.
L'Allemagne, elle semble rompre le cordon sanitaire face à l'extrême droite.
C'est une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Une alliance des voix hier entre l'extrême droite de l'AFD et les conservateurs CDU pour faire adopter au Bundestag un texte visant à durcir la politique migratoire du pays. Un vote qui intervient en pleine campagne électorale et une semaine après une nouvelle attaque au couteau. Explication à Berlin de Pascal Thibault.
Lorsque la décision tombe, 348 voix pour, 344 contre, les députés AfD exultent. L'un d'eux parle d'une nouvelle ère. La présidente de l'Alternative pour l'Allemagne, Alice Weidel, savoure le coup de canif infligé au cordon sanitaire autour de son parti.
C'est une victoire de la démocratie et bien sûr une victoire de l'AfD.
Pour la première fois depuis la guerre, des partis acceptent les voix de l'extrême droite pour faire passer un texte. À gauche, les protestations sont nombreuses. Le chancelier Scholz a même spéculé devant le Bundestag sur une alliance en bonne et due forme entre chrétiens-démocrates et AfD.
Vous acceptez le soutien de ceux qui combattent notre démocratie. C'est une faute grave. C'est une faute impardonnable.
Les chrétiens-démocrates ont fait un pari risqué avec une motion qui n'a pas de caractère contraignant. Regagneront-ils des électeurs tentés par l'extrême droite? Perdront-ils un électorat plus modéré? Le candidat à la chancellerie de la CDU et le favori des sondages, Friedrich Merz, a défendu sa stratégie.
Une bonne décision ne perd pas sa valeur parce que les mauvaises personnes la soutiennent. Elle reste pertinente.
Vendredi, une proposition de loi des chrétiens-démocrates pourrait, en cas de vote positif, confirmer la césure de ce mercredi. Pascal Thibault, Berlin RFI.
On termine ce journal en musique, Alban, avec un événement qui fête ses 30 ans en France.
La folle journée de Nantes. Jusqu'à dimanche au programme, 300 concerts de musique classique. Carmen Lunzmann.
Revisiter Carmen, l'opéra de Bizet au saxophone ou le printemps des quatre saisons de Vivaldi à la musette, c'est l'esprit de la folle journée de Nantes qui s'amuse depuis 30 ans à bouleverser les codes de la musique classique. Quelques 2000 artistes sont au rendez-vous chaque année.
Pratiquement tous les artistes qui aujourd'hui sont au zénith ont débuté leur carrière à la folle journée.
René Martin, fondateur et directeur artistique du festival.
La fréquentation est hallucinante puisque quand nous additionnons tous les mélomanes qui sont venus à Nantes depuis la création, nous dépassons les 3 200 000 personnes.
Parmi les temps forts, la création française d'un concerto pour quatuor de saxophone et orchestre à destination de l'espace.
Cette œuvre, enregistrée et créée pour la folle journée, devrait, en 2026, partir dans la Lune, car la NASA, avec la collaboration de la France et le Japon, vont envoyer une capsule avec toutes les grandes références culturelles de notre civilisation.
En attendant, le festival déroule le tapis rouge sur Terre, à destination des villes phares dans l'histoire de la musique, de Venise à New York, en passant par Alep en Syrie, au carrefour des civilisations, pour célébrer la diversité musicale dans le monde.
Et la folle journée de Nantes, c'est jusqu'à dimanche.
Et c'était Alban Le Prince pour le journal. Merci beaucoup à vous. 7h13 à Paris, l'Infosport tout de suite. Avec Antoine Grenier du football à la une, c'est terminé Antoine pour la première phase de la Ligue des Champions. Après la 8e et dernière journée, on connaît désormais tous les qualifiés.
Et malgré sa défaite 3-2 face au PSV Eindhoven, Liverpool termine en tête et se qualifie directement pour les 8e de finale. Tout comme Barcelone, Arsenal, l'Inter, l'Atlético de Madrid, le Bayer Leverkusen, Lille et Aston Villa. Pour les autres équipes, ce sera les barrages, notamment pour le Real Madrid, large vainqueur de Brest 3-0, et le Paris Saint-Germain qui a dominé Stuttgart 4-1. Le triplé d'Ousmane Dembélé aura symbolisé la réussite parisienne, sourit son partenaire Désiré Doué.
On essaye juste de jouer comme on sait le faire, de jouer notre football, ça a marché, contre une belle équipe de Stuttgart, hein, qui est une équipe très bonne. Et voilà, on a su être sérieux dès le début du match, on a mis beaucoup d'intensité aussi et hein, ça nous a permis de remporter le match. Je ne sais pas s'il y a eu un déclic, on essaye juste d'appliquer ce que le coach nous demande, voilà, on se connaît de mieux en mieux, on essaye de trouver les automatismes sur le terrain, je pense que ça se ressent et on continuera à travailler.
Désiré Doué avec Cédric De Oliveira, le PSG termine 15e du classement et affrontera soit Brest, soit Monaco en barrage.
Des barrages auxquels Manchester City participera après une phase initiale très compliquée.
Avec une qualification obtenue seulement lors de la 8e et dernière journée après un succès sur Bruges, 3-1. Mais à la mi-temps, les hommes de Pep Guardiola étaient menés 1-0 et virtuellement éliminés. Le technicien espagnol a donc sué à grosses gouttes. Alors il savoure cette qualification pour un barrage au sommet contre le Real Madrid ou le Bayern Munich.
On était éliminés à la mi-temps et quand on n'a plus rien à perdre, parfois on se met à mieux jouer. Des joueurs peuvent se révéler comme Savinho qui a totalement changé le match. Bruges s'est mis au marquage individuel, ce qui a permis à nos joueurs de faire des différences. Et maintenant, on est toujours dans la compétition. Dans 2 semaines, on sera meilleur, nos recrues seront là. On va jouer contre un géant et on verra bien comment ça se passera.
Manchester City, comme les autres, sera fixé sur son adversaire ce vendredi lors du tirage au sort à Nyon en Suisse. Les matchs allés des barrages de Ligue des Champions se disputeront les 11 et 12 février prochains.
Après la Ligue des Champions, autour de la Ligue Europa de vivre ce soir son dénouement.
Huitième et dernière journée de la phase régulière, on connaîtra les 24 qualifiés pour la suite de la compétition. Une seule équipe est déjà assurée d'être en huitième, la Lazio de Rome. Derrière, d'autres rêvent des huitièmes de finale, notamment Lyon, assuré de disputer les barrages et qui devra battre les Bulgares de Ludogorets pour le tout premier match sans Pierre Sage limogé cette semaine. Coup d'envoi 20h temps universel.
On termine avec le hand et la première demi-finale du mondial masculin.
À 20h temps universel là aussi, la France se mesure à la Croatie, laborieusement qualifiée face à l'Égypte avec un dernier but à l'ultime seconde. Les Bleus ne partent pas favoris, d'autant que les Croates joueront devant leur public à Zagreb. 16 000 personnes unies derrière leur sélection et donc une ambiance surchauffée en perspective que les Français devront gérer pour rejoindre la finale de dimanche à Oslo.
Antoine Grenier pour l'Infosport. Vous revenez dans un peu plus d'une heure, Antoine. Aujourd'hui, l'économie sur RFI. Bonjour Stéphane Geneste.
Bonjour Andréane.
On parle de la Syrie avec vous ce matin, alors que le chef du HTS, Ahmed Al-Shara, a été désigné hier président pour la phase de transition, chargé de former un conseil législatif intérimaire. Le nouveau pouvoir en Syrie, installé depuis près de deux mois, et la chute de Bachar Al-Assad, plaide pour une levée des sanctions occidentales imposées du temps de l'ancien régime. Or, ces derniers jours, l'UE s'est mise d'accord pour une feuille de route en ce sens, décision immédiatement saluée par le chef de la diplomatie syrienne. Il faut dire, Stéphane, que l'économie de la Syrie est en ruine.
Oui, tous les indicateurs économiques du pays sont dans le rouge. Le principal, le PIB, le produit intérieur brut, est historiquement bas. D'après la Banque mondiale, entre 2010 et 2021, il a chuté de 54%. L'autre marqueur de la situation économique désastreuse, c'est l'inflation. Depuis le début de la guerre, les prix n'ont jamais cessé d'augmenter. Sans vous assommer de chiffres, celui-ci est frappant. Toujours entre 2010 et 2021, l'inflation était de plus de 5500%. Concrètement, ce qui coûtait une livre syrienne en 2011 en valait 5500 en 2022.
Ce qui implique, Stéphane, un taux de pauvreté important.
Pratiquement 7 Syriens sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. Statistique qui classe la Syrie parmi les pays où l'insécurité alimentaire est la plus élevée au monde. D'après l'ONU, tout manque sur place. Et c'est pour beaucoup de Syriens, l'arrivée d'un nouveau visage à la tête du pays est synonyme de changement. Pour l'heure, ce ne sont que deux exemples. Les fonctionnaires ne sont pas payés et l'électricité n'est accessible que quelques heures par jour.
Alors donc maintenant que le constat est fait, quels sont les leviers pour que l'économie de la Syrie reprenne des couleurs ?
Il y en a plusieurs, mais en premier lieu, arrêtons-nous sur les forces de l'économie syrienne d'avant-guerre. Le pétrole d'abord. Dans les années 2000, le pays tirait principalement ses revenus de la production pétrolière. Elle est aujourd'hui en déliquescence totale puisque selon l'administration américaine de l'information sur l'énergie, le nombre de barils produits par jour est passé de 380 000 en 2010 à peine 90 000 l'an passé. On notera aussi l'agriculture, secteur aussi à la peine puisque le conflit a endommagé les infrastructures et les systèmes d'irrigation, ce qui a un impact évident sur la sécurité alimentaire du pays. Et puis, sans être exhaustif, on retiendra aussi le textile. Mais là aussi, les manufactures de coton ont largement été détruites ces 13 dernières années.
Et le tout, Stéphane, dans un contexte, on en parlait, de sanctions occidentales.
Évidemment, impossible de ne pas évoquer cet aspect. La situation du pays s'explique en partie aussi par ces sanctions, puisqu'elles limitaient et les importations et les exportations avec les Occidentaux. Résultat, au moins 6 millions de personnes ont fui le pays. Reconstruire la Syrie, ça va prendre du temps et ça va coûter beaucoup d'argent. La Ligue arabe parlait en 2021 de 900 milliards de dollars. Mais vous l'aurez compris, cette reconstruction passera par un allègement, voire la levée de sanctions avec les ressources naturelles disponibles qu'on évoquait, comme le pétrole, qui est une devise forte, et les ressources humaines, à savoir les Syriennes et les Syriens, qui en recréant des emplois pour reconstruire le pays, pourraient être finalement des pierres angulaires à cette renaissance de l'économie syrienne.
Merci Stéphane Geneste, RFI 7h20 à Paris. Notre grand invité international ce matin, invité RFI et France 24 au micro d'Arnaud Pontus et de Marc Perelman, le président du conseil présidentiel de transition haïtien Leslie Voltaire. Entretien.
Bonjour, Monsieur le Président.
Bonjour.
Monsieur le Président, je vais commencer par la situation sécuritaire. On estime que 85% du territoire de la capitale Port-au-Prince est actuellement aux mains des gangs. Il y a eu plusieurs massacres de grande ampleur ces derniers mois qui ont frappé l'opinion. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans son dernier rapport sur Haïti, affirme, avertit, les gangs pourraient s'emparer de l'ensemble de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, ce qui entraînerait l'effondrement complet de l'autorité de l'État. Il a raison.
Je ne pense pas qu'il ait raison. Je sais que la police et l'armée, aidées par la force multinationale de support à la sécurité, à la police haïtienne, est en train de combattre les gangs, non seulement dans la zone métropolitaine, surtout dans les hauteurs à Kinskoff, et aussi dans l'Artibonite. Je pense que avec l'annonce du secrétaire d'État Marco Rubio, qui dit qu'ils vont continuer à financer la force multinationale, on a eu un apport de 200 Kenyans en plus, de 80 Salvadoraignes et de 150 Guatémaltèques. La police va refouler les gangs et on va arriver à les isoler. On nous avait promis 2500 troupes. Nous sommes en train de former des militaires et des policiers. On a un apport en matériel létal des États-Unis et de la France. Je pense que les gangs sont en train de reculer sur certains fronts. Ils attaquent sur d'autres fronts. Mais je pense qu'on va avoir une sécurité beaucoup plus prononcée dans la zone métropolitaine.
Monsieur le Président, vous parlez de cette mission internationale d'appui à la sécurité. Vous le dites, 800 hommes sur 2500 espérés. Ça fait tout de même une très grande différence. Et pour l'heure, au risque de vous contredire, les gangs ne reculent pas.
Les gangs ont reculé sur Delma 2. Les gangs reculent dans l'Artibonite. Ils attaquent sur d'autres fronts. Et en plus, non seulement on a 8000 policiers, on a 1 200 000 soldats. Et maintenant, la force multinationale va augmenter.
Et ces effectifs vous semblent nécessaires, suffisants en l'état ?
Ils ne sont pas suffisants. Je pense qu'on est en train de faire du lobby pour augmenter les effectifs. Et la population s'est alliée à la police. Et ils ont commencé à faire des travaux de légitime défense sur les bandits. Et c'est une guerre qu'on a lancée. Et on a lancé un slogan de pacification du pays durant l'année
2025. C'est ce que vous avez dit il y a quelques jours. Et, vous pensez cet objectif tenable, Monsieur le Président ?
C'est totalement tenable.
Je veux quand même en venir à la situation humanitaire, qui est dramatique. 1 million de déplacés en 2024, 3 fois plus que l'année précédente. 2 millions d'Haïtiens en situation d'insécurité alimentaire grave. L'ONU a lancé un appel de fonds pour 900 millions de dollars, mais on sait que les précédents appels n'ont pas été concluants. Est-ce que vous espérez de la communauté internationale ? Vous avez vu le pape à Rome, le président français ici à Paris, qu'elle va enfin se tenir réellement aux côtés des Haïtiens.
Bon, je crois que le secrétaire d'État américain avait annoncé que le président Trump allait couper l'aide humanitaire, mais hier j'ai vu qu'ils se sont ravisés. Ils vont pas couper l'aide humanitaire. Le programme alimentaire mondial est en train de fournir des aliments et des médicaments à l'Organisation internationale de la migration et l'Organisation nationale de la migration en Haïti. C'est une situation compliquée et difficile, mais je crois que on va arriver à un retour au quartier en éliminant les gangs qui contrôlent certains quartiers.
Parlons de la situation et des perspectives politiques en Haïti. Vous avez promis la tenue d'un référendum sur la Constitution ainsi que des élections générales à l'horizon d'un an à peu près. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, parle d'objectifs compromis
Pensez-vous vraiment pouvoir tenir ce calendrier ?
Je pense que oui, on peut tenir ce calendrier. On espère que vers la fin avril, vers la mi-mai, on aura un référendum sur la Constitution et à partir de ce référendum qui dira quelle sorte de conseil électoral on aura dans la nouvelle Constitution, qu'on pourra commencer avec les joutes électorales. On espère que les élections se feront vers la mi-novembre et le deuxième tour vers la mi-janvier pour que enfin le 7 février, on ait un gouvernement légitime. Moi, je pense que on aura des élections dans 8 départements qui sont libres de gang. On aura des élections dans l'Artibonite qui est à un quart est contrôlé par les gangs. On aura des élections dans la moitié de Port-au-Prince. Les gens qui vivent dans les zones contrôlées par les gangs pourront aller s'inscrire dans les zones qui sont libres et voter dans les zones qui sont libres. Mais je dois dire aussi que la dernière élection, le président Jovenel Moïse avait réussi avec 500 000 électeurs. Maintenant, on a à peu près 7 millions d'électeurs. Si les élections se font avec 5 millions d'électeurs, le gouvernement légitime, le président ou la présidente, les sénateurs, les députés ou les maires seront beaucoup plus légitimes que le conseil présidentiel que je préside.
Monsieur le Président, d'un mot sur cette question, ça veut dire que tous les Haïtiens ne pourront peut-être pas voter, tous ceux qui le veulent, et qu'on ne pourra pas voter partout. Ça, c'est un état de fait que vous admettez d'ores et déjà ?
J'admets d'ores et déjà, et j'admets aussi qu'on va essayer de faire voter les Haïtiens qui se trouvent en diaspora pour augmenter le taux de participation, et j'admets aussi que ce sera beaucoup plus légitime qu'un conseil présidentiel qui est issu d'un accord politique. C'est une légitimité sociale et politique, mais ce n'est pas une légitimité électorale.
Pour refermer cet entretien, vous avez rencontré ce mercredi le président français, Emmanuel Macron. Est-ce que vous lui avez parlé de la restitution de la dette d'indépendance ? Pour ceux qui nous écoutent en un mot, 1825, la France du roi Charles X avait exigé d'Haïti des indemnités au moment de l'indépendance. Est-ce que vous avez demandé à votre homologue le remboursement ?
Ce n'est pas moi qui ai demandé, c'est lui qui a commencé à parler de la restitution.
Et qui vous l'a proposé?
Et de la réparation. Et il a dit que le 17 avril, qui marquera le bicentenaire de cette rançon, il va faire une déclaration.
Et vous pensez que ce sera une déclaration dans le sens d'une restitution? On parle de 525 millions d'euros.
On n'a pas parlé d'argent, on a parlé
de principe.
D'une déclaration. Et qu'on va voir ensemble.
Donc les relations sont bonnes aujourd'hui avec le président français ?
Sont très bonnes et très cordiales.
Vous avez oublié les mots lâchés en novembre dernier, qui s'adressaient aux membres du Conseil présidentiel de transition ?
On n'en a pas parlé et je pense que ce n'était pas de bon ton d'en parler.
Merci, monsieur le président.
Merci.
Leslie Voltaire, président du Conseil présidentiel de transition en Haïti, entretien RFI et France 24, Arnaud Pontus et Marc Perelman face à Leslie Voltaire. C'est à retrouver sur la longueur et en vidéo sur notre site www.rfi.fr.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
Journée mondiale des maladies tropicales négligées.
Demain,
question de femmes, nous parlons des symptômes et traitements des troubles et maladies de la thyroïde.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Le Centre Pompidou Metz présente l'exposition « Après la faim, carte pour un autre avenir » du 25 janvier au 1er septembre. Au programme, 40 artistes internationaux autour de récits nouveaux et ancestraux, populaires et modernes, traversés par l'histoire coloniale et post-coloniale. « Après la faim, carte pour un autre avenir » à partir du 25 janvier. Plus d'informations sur centrepompidou-metz.fr. En partenariat avec RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur le thème d'aujourd'hui.
des projets de barrages aux extensions de sites industriels, partout, les mobilisations collectives et environnementales se multiplient pour l'abandon de ces projets. Mais pour quels résultats concrets ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.